Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio CCA La France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans CCA La France, l'émission du savoir-faire français. Vous êtes de plus en plus nombreux à profiter de ces jours de télétravail et de confinement répété pour entreprendre votre grand ménage de printemps, vider, trier, réaménager. Il y a un vrai engouement des Français pour le vide-maison. Les enseignes comme Easy Cash, Cash Converter ou encore Happy Cash ont le vent en poupe. Les conciergeries sont également très demandées, on va en parler tout à l'heure, celles qui vous aident. On le verra dans la deuxième partie de cette émission, mais tout de suite, je vous propose de découvrir Happy Cash, spécialisé dans l'achat-vente et le dépôt-vente de produits d'occasion depuis près de 20 ans.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Pascal Lebar, PDG du groupe Happy Cash. Bonjour Pascal Lebar.
Bonjour.
Alors, je le disais tout à l'heure, malgré la crise sanitaire, les magasins fermés, Happy Cash a réalisé d'excellents résultats en 2020. 15 millions d'articles vendus pour un total de 110 millions de chiffres d'affaires en 2020. Les rendez-vous pour les vides-greniers ont augmenté par rapport aux années précédentes. Donc, clairement, il se passe quelque chose là. Il y a un vrai engouement, comme je le disais.
Effectivement, nos magasins sont, non pas assaillis, mais très fréquentés en ce moment. Je crois que les Français ont besoin de chiner, découvrir des produits originaux qu'ils s'approprient et puis qu'ils transforment. On est un lieu d'inspiration. Je crois que nos magasins, effectivement, respirent bien en ce moment.
C'est une manière de se dégager l'esprit également, de faire le rangement partout, dans sa tête, dans sa maison.
Oui, absolument.
Alors, présentez-nous à Happy Cash, comment ça fonctionne ?
Alors, nos magasins sont des grands espaces dans lesquels on vient importer des produits. Deux solutions pour céder ces produits. La première, les vendre cash, c'est-à-dire vendre directement. Nous achetons les produits en les testant, en les regardant et en utilisant notre base de données, notre Argus, si j'ose dire. Deuxième solution, les consommateurs nous les confient et nous les vendons pour leur compte. Et là, c'est du dépôt-vente.
Mais dans tous les cas, il faut se déplacer pour venir ou parfois ou vous avez des ambassadeurs qui viennent directement, des émissaires qui viennent directement chez les particuliers ?
On fait effectivement beaucoup d'estimations à domicile, de plus en plus d'ailleurs, parce que les Français veulent savoir combien coûtent leurs objets et quel prix ils en tireront. Donc on se déplace sur rendez-vous. Il suffit de contacter un magasin Happy Cash, Happy Troc ou La Trottante ou troc.com et puis on vient chez vous.
Oui, c'est vrai que vous avez décliné Happy Cash, donc il y a Happy Troc, vous avez racheté notamment troc.com, Happy Fripp. Il y a toute cette déclinaison pour pouvoir justement couvrir tous les secteurs finalement d'activité.
Absolument, on se veut les magasins de la maison pour la seconde main. Tout produit, que ce soit intérieur, extérieur, high-tech, mobilier, déco, tout ce qui est accessoire, tout ce qui est dans la maison, finalement, rentre dans nos magasins sous toutes leurs formes.
Vous avez des experts qui vérifient l'état des produits, donc que ce soit de la maroquinerie, du high-tech, de l'électroménager.
Oui, absolument. On vérifie l'état des produits, on vérifie le bon fonctionnement des produits, parce qu'après, nous garantissons nos produits. Nous validons absolument tout ce qui rentre chez nous pour être certain que ce sont de vrais produits et puis des produits qui sont en bon état de fonctionnement et qui satisferont les clients suivants.
C'est ça, vous garantissez la fiabilité des produits et finalement d'avoir des magasins physiques, ça aussi ça doit être un plus pour les Français qui ont peut-être besoin d'échanger quand on vient avec un produit d'occasion. On veut le faire estimer. Bon, on aime bien avoir quelqu'un en face de soi et pas tout faire online, sur Internet.
Absolument. Alors, deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'effectivement, on vient toucher les produits, on vient chercher des conseils. On vient peut-être pour un produit, puis on repart avec un autre.
C'est vrai.
c'est des sources de créativité. On échange avec les gens qui sont chez nous, que ce soit des vendeurs, des acheteurs, etc., pour trouver des nouvelles idées. Et une armoire peut devenir un lit ou devenir un autre objet dans la maison quand on se le repersonnalise.
Alors, je le disais tout à l'heure, il y a de la concurrence. C'est vrai qu'il y a des gros acteurs comme vous sur ce terrain-là. Comment faire pour constamment se renouveler, adapter son offre, ses services ?
En fait, on est très curieux et on prend absolument tout, on ne refuse rien, sauf quand les produits sont dans un état lamentable, évidemment, mais sinon, on ne refuse rien. Et tous les gens qui sont chez nous sont des créatifs ou des curieux. C'est la caractéristique principale de toutes les équipes de nos magasins.
Alors tout à l'heure, je vous posais la question de comment vous expliquez cet engouement. C'est une redécouverte finalement de l'occasion par les Français, ou bien c'est aussi un besoin économique, hein, de pouvoir vendre le surplus parce que financièrement on en a besoin. Comment vous expliquez tout ça ?
Alors vous avez raison. La première raison pour fréquenter un magasin à Picache ou à Pitroc, c'est l'économie. On achète moins cher un objet qui fonctionne de la même manière qu'un produit neuf.
Et qui est garanti parfois aussi en plus. Hein. Il y a quand même des garanties.
Hein. Il est garanti. Ouais. Tous nos produits sont garantis. D'abord, c'est une obligation légale et nous garantissons les produits jusqu'à 5 ans.
Ouais.
Donc, on s'engage pour tous les produits que nous vendons. La deuxième chose, c'est que je crois que les Français ont envie de retrouver un petit peu de proximité, un petit peu de vrai dans leur quotidien. Et il faut signaler que tous les produits qui sont chez nous, enfin quasi tous, viennent d'un environnement qui est environ de 10 km autour des magasins.
Ah oui, ouais. C'est ça. Donc il y a un retour à l'essentiel et un retour aussi finalement au circuit court. C'est-à-dire qu'on essaye de revoir un peu sa manière de consommer.
C'est ça. Les consommateurs se rencontrent dans nos magasins et s'aperçoivent qu'on peut très bien vivre avec des produits simples autour de chez soi, et puis retrouver en même temps du pouvoir d'achat. On distribue du pouvoir d'achat.
Parce que finalement, l'occasion, le marché de l'occasion, c'est dans les pays anglo-saxons, ça fait des années hein, que c'est rentré, c'est une pratique commune. Nous, ça a mis un peu de temps à s'installer.
Ce marché, il existe. Les plus vieux magasins chez nous ont 40 ans.
Ouais.
Les trocs sont nés, les trocs et les trocantes sont nés dans les années 80, au début des années 80. Et effectivement, ce marché a explosé à la fin des années 90 en devenant un marché de cash. Et il s'est plutôt orienté vers les produits high-tech.
Ouais.
Mais aujourd'hui, on assiste à un grand retour de tous les produits de la maison, dont les meubles, les bibelots, tous ces produits que chacun a envie de retrouver chez soi.
C'est ça, on donne sa chance à des produits, à des secondes vies, en fait, pour tous ces produits qui ont déjà été utilisés. Vos magasins sont dans toute la France, parce que je pense que nos auditeurs se posent la question, mais alors comment est-ce qu'on fait pour retrouver un Apicache ?
On est un petit peu partout en France, un petit peu moins en région parisienne, mais ça vient. Et puis nous sommes également présents en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne. Et nous avons un développement qui va crescendo. C'est très facile d'ailleurs de rentrer chez Apicache et de créer son magasin. Et donc on est aujourd'hui un vrai centre de création de valeur ajoutée.
Et le premier magasin Apicache, il a été créé où alors, il y a 40 ans ?
Le premier magasin, il a été créé à Toulouse.
Ah bien, c'est la ville d'origine de notre radio, ça va faire plaisir aux Toulousains qui nous écoutent. Donc le premier Apicache a eu lieu à Toulouse et depuis vous avez essaimé dans toute la France et hors de France, on vient de l'entendre, dans
Absolument.
L'Europe entière.
Oui.
Eh ben merci beaucoup pour cet éclairage Pascal Lebar. Je rappelle que vous êtes le président directeur général du groupe Apicache, donc cette entreprise qui met en avant donc tout ce qui est achat-vente, dépôt-vente de produits d'occasion depuis maintenant, enfin on dit depuis plus de 20 ans, mais c'est bien plus que ça, puisque le premier magasin a été créé il y a 40 ans.
Oui.
Merci beaucoup Pascal Lebert.
À très vite.
Je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, on va se quitter un court instant et juste après, je vous ferai découvrir justement ces conciergeries d'un nouveau genre qui ont pignon sur rue à Paris et pas que. Lulu est là dès que vous avez la moindre question. À tout à l'heure.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio CCLA France, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on s'intéresse à tous ces services Made in France qui ne cessent de grandir. Et on va s'intéresser surtout à la conciergerie Lulu. Qui est Lulu ? Eh bien, on en parle dans un instant. Les conciergeries sont très demandées.
Sud Radio, c'est ça la France.
Vous avez besoin d'aide, pas d'inquiétude, Lulu est là. Bonjour Charles-Édouard Vincent, vous êtes le président de Lulu dans ma rue.
Bonjour.
Alors les conciergeries, c'est vrai qu'on a oublié, hein, il fut un temps, il y en avait beaucoup. Et là, vous avez décidé avec Lulu dans ma rue de réinventer ce système de conciergerie. Racontez-nous qui est Lulu et qui sont ces Lulu.
Alors Lulu dans ma rue, c'est une conciergerie de quartier, c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des conciergeries assez haut de gamme, mais finalement pour tous les petits services du quotidien, les petits coups de main, un peu de bricolage, du nettoyage, m'aider à porter des cartons, brancher
ma
Freebox.
C'est très large en fait.
Oui, donc en fait on assure aujourd'hui plus d'une centaine de kits de services pour tous les petits besoins du quotidien. Et donc on va chercher dans le quartier des gens qu'on sélectionne et qu'on teste, et qui vont pouvoir rendre des services. Et pour ça, on a deux canaux. Il y a à la fois un réseau de kiosques, alors pour l'instant, on est sur Paris, un réseau de kiosques dans Paris, et puis une appli qui permet de trouver facilement son Lulu qui va venir rendre le petit service.
Alors, comment devient-on un Lulu ?
Alors, on peut postuler soit par Internet, soit en allant dans nos kiosques.
Il faut forcément habiter le quartier du kiosque.
Oui, alors aujourd'hui on couvre tout Paris, hein. On a une dizaine de kiosques sur Paris et on couvre tout Paris. Après nous ce qu'on va faire c'est que quand un Parisien va nous faire une demande, on va trouver le Lulu le plus proche de chez lui et le plus rapidement disponible pour intervenir soit en bricolage, soit en ménage. Hein. Aujourd'hui les deux grosses demandes c'est le bricolage et le ménage.
Il faut le dire, hein, ce qui est intéressant dans Lulu, dans ma rue, c'est toutes ces valeurs de l'entraide qui sont remises en avant. Vous remettez l'humain au cœur de nos vies, au cœur de notre quotidien.
Ben en fait, Lulu dans ma rue est partie de deux constats. C'était d'abord comment est-ce qu'on peut mettre l'activité économique au service de l'impact social, c'est-à-dire comment finalement ces petits services peuvent être le moyen pour des gens de gagner de l'argent de manière légale et dans un cadre sécurisé. Et puis deuxièmement, c'est aussi de se dire on a de plus en plus d'isolement et d'anonymat dans nos villes. Et tous ces petits coups de main sont aussi l'occasion de rencontres, de retisser du lien dans la ville. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a réalisé à Paris plus de 200 000 prestations, hein, 200 000 services, et ça marche très très bien.
Ouais, ça montre que ça fonctionne effectivement. C'est mettre en valeur ce que vous savez faire et on vous donne l'occasion. C'est un peu un système, j'allais dire, gagnant-gagnant.
Alors c'est gagnant-gagnant et puis finalement l'idée est très très simple, hein, c'est de se dire dans le quartier il y a des gens qui ont du temps et pas d'argent et puis il y a des gens qui ont de l'argent mais pas de temps et finalement si on les mettait en lien et que du coup les uns pouvaient aider les autres, ce serait super, ça crée vraiment de l'activité, hein, ça permet à des gens de gagner de l'argent. On a aussi on a une école de formation, on a aussi tout un dispositif d'accompagnement des Lulus pour les aider aussi dans leur démarche sociale donc on s'assure que les prestations sont bien faites et que les Lulus qui interviennent, on peut leur donner aussi un petit coup de main pour rebondir, trouver un métier autre pour certains. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant.
Comment est-ce qu'on fixe le prix du service ? Parce que vous le dites depuis tout à l'heure, c'est beaucoup plus abordable, mais c'est-à-dire, donc il y a une rétribution, elle se fait comment ?
C'est très simple. Oui, on a fixé une tarification au temps passé, c'est à l'heure. Donc si vous prenez le bricolage, on va être à 30 euros de l'heure. Si vous prenez du ménage, on est à 25 euros de l'heure. Et en fait, tous les Lulus rentrent dans cette grille tarifaire. Après, sur de la manutention, alors pour porter des armoires, des cartons de livres, on est sur du 40 euros de l'heure. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir fixer une grille tarifaire qui soit simple, lisible et fiable, et pas de mauvaises surprises.
Ouais, c'est une start-up sociale qui crée de l'emploi, hein, finalement, avec tous ces Lulus et tous ces services rendus. Alors, vous, Charles-Édouard Vincent, vous êtes polytechnicien. Vous avez travaillé déjà à Emmaüs, hein, dans un premier temps, Emmaüs Défi. Comment est-ce qu'on en vient à créer Lulu dans ma rue ?
En fait, avant de travailler à Emmaüs Défi, j'ai travaillé dans la Silicon Valley et dans les startups. Et finalement, Lulu dans ma rue, c'est un peu la synthèse de mon expérience professionnelle dans les startups et de mon expérience à Emmaüs, où je voyais énormément de gens qui ont de très grandes qualités humaines et des vraies compétences, et qui avaient envie de les mettre au service des autres et du quartier. Et donc, je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on réinvente les petits boulots. Et l'arrivée du numérique qui nous fait peur, je me suis dit, mais tiens, finalement, ce numérique, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre au service aussi du social et de s'assurer que toute cette économie qui apparaît avec les applis, etc., la mise en relation beaucoup plus simple avec les smartphones, et ben comment cette économie peut créer de l'emploi pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, mais un vrai savoir-faire.
Donc on dépoussière quoi, le concept de conciergerie, on s'appuie sur le numérique.
Exactement.
Alors aujourd'hui, vous avez dit un 7 kiosques Lulu dans Paris. Est-ce que vous imaginez le déployer ailleurs, dans d'autres grandes villes de France, à Marseille, à Lille, à Lyon, à Bordeaux?
Alors, on a eu énormément de demandes de ces villes. On est en train de le faire. Là, on est en train de se préparer à se déployer. On ne peut pas encore dire les villes, mais sur 2021, on va ouvrir deux nouvelles villes. Donc, on a passé pas mal de temps à bien affiner le concept, bien tout organiser pour vraiment garantir la qualité de service qui est la clé pour nous de la réussite du projet. Et maintenant, sur Paris, on est solide et c'est bon. Et donc, on est en train de se déployer. On a eu plus de 300 demandes de villes en France pour installer ce concept qui allie et des kiosques, donc une implantation vraiment territoriale de vie de quartier, et le numérique avec une appli et la simplicité de l'utilisation et d'avoir accès en fait au Lulu, trouver facilement et rapidement le Lulu dont on a besoin.
Il faut adapter donc notre Lulu en fonction des différentes villes. Il y a des formations aussi pour ça. Alors, les services sont tellement différents. La formation, elle sert à quoi exactement, ces formations proposées par Lulu dans ma rue ?
Alors, on a deux types de formations. On a vraiment des formations autour de la gestion de la relation client, savoir bien interférer avec un client, bien comprendre ses attentes, bien poser les questions en amont pour s'assurer que la prestation se passe bien. Et puis, des formations techniques sur le ménage. Donc, on a des parcours de formation sur le ménage, sur le bricolage, sur l'aide informatique, pour s'assurer que certains, on a des Lulus qui ont 80% des compétences, mais il leur manque les 20%, eh bien on va leur apporter ce qui manque et avant de les envoyer en clientèle. On a vraiment un programme social très, très développé pour aider les personnes à trouver leur voie.
Eh bien, vivement que Lulu dans ma rue se déploie dans la France entière. Merci beaucoup, Charles-Édouard Vincent, président de Lulu dans ma rue. Merci, je vous souhaite un bon dimanche et merci pour votre témoignage.
Merci à vous, à bientôt, au revoir.
Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio CSA La France, avec Thibaut, le French Trotter.
Alors Thibaut, je crois que vous allez nous parler là encore d'un autre type de conciergerie.
Et oui Nathalie, je me suis intéressée aux conciergeries touristiques locales. Ces conciergeries qui s'adressent aux propriétaires de chambres d'hôtes qui souhaitent par exemple déléguer le référencement en ligne, les réservations, l'accueil ou le ménage. Et j'ai rencontré Faustine Millard qui s'est lancée dans cette aventure après une première vie dans le journalisme. Sa conciergerie s'appelle B&B Conseil, B&B comme Airbnb. Et elle s'occupe d'un portefeuille de propriétés dans le Lot-et-Garonne et le Gers. C'est justement dans une de ces maisons, en location, à proximité d'un village gascon, que je l'ai rencontrée. Écoutez.
Alors là, nous sommes à Gondrin, dans la maison de campagne de Anouk et Louis, qui sont expatriés à Québec et qui m'ont laissé la charge de gérer leur location saisonnière le reste de l'année pour accueillir les voyageurs et les touristes en désir de découverte de la Gascogne.
Donc, quel service vous leur rendez exactement ?
Eh bien, ici, dans cette propriété, on va être sur un service complet, c'est-à-dire que je vais travailler tout ce qui est leur stratégie digitale et marketing afin de remplir leur calendrier de réservation, m'occuper des clients, des locations, cautions, contrats, paiements, arrivée et départ des clients et gestion de la logistique du ménage avec une équipe de professionnels que j'ai réussi à mettre en place sur le secteur Condomois.
Vous êtes venu ici pour une raison particulière, je crois, aujourd'hui, c'est ça ?
Exactement, je suis venu pour vérifier un petit peu la mise en place en vue de l'arrivée prochaine de locataires ce vendredi. Et donc, je passais pour voir si tout était en place, si rien ne manquait, afin qu'ils puissent être accueillis avec le meilleur confort qu'il est possible d'imaginer.
Alors, est-ce qu'on peut décrire cette maison ? Elle est très agréable, elle donne sur un panorama, c'est exceptionnel, on devine les Pyrénées au loin.
Alors c'est une petite maison gasconne, une ancienne ferme je suppose, qui date de 1862. Donc ici on a essayé en effet de travailler sur la vue imprenable, le calme, le côté isolé de la propriété, les commodités parce que nous sommes quand même à 2 km de Gondrin. Avec des vélos, c'est facilement atteignable pour aller chercher son pain et ses croissants. Ce sont des petits atouts que les locataires apprécient particulièrement.
Imaginons que je sois un visiteur, allocataire pour une semaine. Comment se passe le check-in ?
Alors le check-in, on va prendre rendez-vous ensemble une fois votre réservation confirmée, afin que je puisse vous accueillir, vous donner les clés, vous présenter rapidement les particularités de la maison. Si vous avez des questions ou des conseils touristiques pour la location de vélo, pour la réservation de restaurant, ou quelles que soient les questions durant votre séjour. Donc, en effet, il ne faut pas hésiter à me solliciter pour tout ça.
Donc, si les voyageurs, par exemple, ont besoin d'un service supplémentaire, d'un conseil, ils peuvent aussi faire appel à elle ?
Ben oui, c'est la vocation de son service de conciergerie qui répond à tous les souhaits des voyageurs. D'ailleurs, comme on est dans le sud-ouest, ça peut être la visite d'un vignoble, une dégustation ou même un chef à domicile, pourquoi pas. Et côté propriétaire, vous l'avez entendu, elle propose un véritable accompagnement pour maximiser les locations et notamment sur le volet digital qui est vraiment le nerf de la guerre.
Et pendant justement cette période de crise sanitaire, comment se porte ce marché des locations touristiques ?
Eh bien justement, je lui ai posé la question.
Alors, il se porte plutôt bien parce que justement, avec ce confinement et ce Covid, la location saisonnière de propriétés privées a eu le vent en poupe parce que les gens ont voulu s'éloigner de la foule, venir dans des départements comme le nôtre, dans le sud-ouest, l'Occitanie, l'Aquitaine, pouvoir profiter d'une maison où ils sont seuls avec leur famille, sans risquer une contamination, etc. Tous les week-ends de mai et juin sont aujourd'hui réservés et les propriétés avec des disponibilités en juillet et août commencent réellement à se faire rares. Donc le vent est en poupe sur ce
secteur. Surtout que les voyages à l'étranger sont déconseillés ou en tout cas compliqués en ce moment.
Exactement. Exactement. Séjourner en France, le séjour en France a été particulièrement plébiscité par les Français. Ça leur permet de découvrir d'autres parties de leur territoire. On sait que la France est riche de paysages. Donc c'est l'occasion pour les gens d'aller à la rencontre de producteurs, d'aller s'évader un petit peu en famille dans des endroits différents de leur quotidien. Ça a beaucoup marché cette année.
Ben voilà qui peut donner des idées pour cet été. Partir à la découverte de nos terroirs en louant une maison d'hôte. Merci Thibault.
Merci Nathalie.
À la semaine prochaine. Merci également à Pascal Lebert, président directeur général du groupe Apicash. On vous l'a dit, le vide maison a progressé de 30% ces derniers temps. Et oui, on profite peut-être du télétravail, du confinement et on a envie de changer pas mal de choses. Merci à Charles-Édouard Vincent, président de Lulu dans ma rue, cette conciergerie d'un nouveau genre qui remet l'humain au cœur de nos vies. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et surtout même radio. Et pour ceux qui souhaiteraient écouter l'émission, bien évidemment, vous pouvez la retrouver en podcast sur sudradio.fr. Bon dimanche.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.